Vous écoutez Des campagnes en mouvement, cinquième saison du podcast sur les ruralités, imaginé et réalisé par les étudiants du master journalisme de l'université Bourgogne-Europe. Cette saison documente des isolements fabriqués par des politiques publiques qui mettent en mouvement par la contrainte. Prendre la voiture plutôt que le train parce que la petite ligne est fermée ou que le TGV traverse sans s'arrêter, devoir aller au bistrot et à la boulangerie du village d'à côté, monter à bord d'un van pour parler santé psychique et violence sexuelle dans des milieux où tout le monde se connaît, apprendre à se servir d'un smartphone pour accéder à ses droits. Elle rend compte aussi de mouvements nés de trajectoires individuelles, des néo-ruraux, parfois néerlandais, toujours CSP+, qui s'installent et recomposent des territoires. Des mouvements qui, parfois, invitent à une nostalgie du temps d'avant, tout aussi fabriqué. Dans une boîte de nuit, on esquisse le portrait d'une jeunesse rurale qui danse sur des années 80 un peu fantasmées, bien aidée par ses aînés qui entretiennent la flamme d'un passé idéalisé. Le mouvement, les remous, c'est aussi un vote RN qui s'assume et des amitiés qui perdurent malgré tout. En se parlant, ou plutôt en faisant ensemble. Ce sont toutes ces facettes du mouvement dans les campagnes de Côte d'Or en Bourgogne-Franche-Comté que les étudiantes et étudiants ont choisi de partager. Bonne écoute.
Vous écoutez Entre deux champs, une mini-série documentaire sur ce qui se joue dans ces mondes ruraux où on ne choisit pas toujours ses voisins, où la proximité quotidienne contraint à composer avec la différence et à inventer une autre politique du quotidien, fondée sur la présence et la réciprocité, plutôt que sur le consensus idéologique. Le premier épisode raconte la trajectoire de mon père, enfant de la campagne omarnaise devenu anarchiste, qui, après plus de 20 ans passés en ville, s'installe dans un village de Lyon, où le Rassemblement National domine largement les élections. Dans le second épisode, Julie Lopez interroge l'histoire de sa mère, Ana Maria. Arrivée du Portugal à 5 ans, elle vit aujourd'hui dans un petit village de l'Aube, mais reste parfois perçue comme étrangère dans ce territoire où le vote d'extrême droite est là encore majoritaire. Entre deux champs. Premier épisode, Hugo et Jérôme. Par Léo Thierry. Mon père est anarchiste. Gamin de la campagne omarnaise, il a passé plus de 20 ans à Dijon, entre travail social et milieu libertaire. Il y a 6 ans, il choisit de venir vivre dans un petit hameau de Lyon, au cœur d'une campagne où le Rassemblement National arrive largement en tête. Alors j'ai voulu comprendre comment s'était passé ce retour à la terre, une terre bien différente de celle de son enfance.
Mon rêve, c'était d'être dans un endroit où il n'y avait plus de feu rouge. J'ai été servi. Et j'ai retrouvé ce plaisir d'un endroit où on vit paisiblement. Bon, on suit un tracteur, on s'énerve pas, on le double quand on peut. Ligne blanche, pas ligne blanche, on s'en fout. Enfin, c'est assez... Il y a une forme de liberté, je trouve, dans le rural. De tolérance, même. Qui fait que, voilà, on s'arrange avec les règles et on vit bien.
Dans le sens que ça se... Je te le dis, c'est comme tu veux.
La pêche, elle a baissé, dis donc.
Mais personne n'y touche. Personne n'y touche.
Le dieu de la goutte.
Ah non, non, moi je ne bois pas de goutte. Tiens, d'ailleurs, je vais en faire une petite.
J'avais compris qu'on ne retrouve plus jamais l'esprit de la campagne de son enfance. Ça, c'est un mythe. Moi, je... Voilà, j'étais pas à la recherche nostalgique de ce temps joyeux et heureux de la campagne. Non. Je savais qu'en campagne, on pouvait aussi se faire chier, qu'on allait tomber aussi sur des gens chelous, des vrais connards. Sans parler des chasseurs, ils sont pas tous cons, mais enfin voilà, je savais que c'était ni mieux ni moins bien qu'en ville, à ceci près que pour moi, je retrouvais un état d'esprit, une philosophie de vie. Hop. Historiquement, Lyon est quand même plutôt versé du côté droite. Et droite rurale, et droite paysanne. Fort ancrage là-dessus, un peu comme la Côte d'Or d'ailleurs, sauf en zone urbaine. Donc quand j'arrive en zone rurale dans Lyon, je ne m'attends quand même pas à tomber sur des foyers de guerrières rousses. C'est sûr que je me sens plutôt tout seul dans mon coin, mais bon, moi ça ne me traumatise pas parce que je sais que c'est pas comme ça qu'on crée des liens dans la ruralité.
Non, parce que t'es mal bouché.
Ah oui, elle s'est vantée.
Eh oui.
En ville, on a un réseau, il se constitue de X manières. Moi, c'était beaucoup lié au champ professionnel et extra-professionnel autour du militantisme politique et puis l'activité bistrotière et tannerie, etc. En campagne, j'avais plus tout ça. Mais justement, parce que t'es plus dans un réseau constitué, t'es plus dans un entre-soi, il faut vraiment décliver ça. Parce que si tu veux voir des gens et sortir un peu et ne pas être dans ton coin, il faut accepter de rencontrer un peu plus de diversité. Quoi.
Prends une 84.
Oh. Il y a encore de l'alcool là-dedans.
Un vrai cocktail Molotov. Bien sûr qu'il y a de l'alcool. Ça ne s'évapore pas, l'alcool.
L'accès à toutes ces choses de culture, de lutte, de... Il est auto-fabriqué, quoi. Il est auto-construit. Et je pense que dans la culture rurale, aujourd'hui, il y aurait quelque chose un peu comme ça, parce que l'État, de toute façon, a foutu le camp. Que les grands acteurs culturels, ils vont là où il y a de la thune et des gens pour venir voir leur truc. Donc, dans les zones un peu reculées, un peu désertiques, on se démerde. Et ça produit des choses intéressantes.
84. Les années mitterrandiennes.
Oh, on parle pas de malheur.
Ça te fait un point commun avec Jérôme, ça.
Dans ce bout de campagne à 2 heures de Paris, être là, faire ici, est un prérequis pour s'ancrer.
Les gens sont contents quand tu t'installes et que tu dis que tu vas y vivre. C'est plutôt bien perçu. Il faut quand même être conscient que autour de dans la région de Lyon où on habite, d'abord on n'est pas loin de Paris, on est à 2 heures. Donc il y a énormément de gens qui s'y installent pour villégiature, quoi, maison secondaire. Et ça rend les campagnes à moitié vides, de fait. Donc quand tu annonces que tu t'installes pour vivre, t'es pas perçu de la même façon. Et je vois bien que moi, aujourd'hui, j'ai des liens avec les gens d'ici qui sont tout à fait différents de ceux qu'ils ont avec des Parisiens qui habitent ici depuis 30 ans. Parce que pour eux, ça reste des Parisiens. D'ailleurs, ils disparaissent 10 mois par an. Alors que nous, c'est tous les jours. Je crois que ce que je sais, moi, pour l'avoir vécu, et particulièrement ici, quand je commence à faire du jardin, quand je commence à planter des trucs, les gens, ils regardent si ça pousse, ils regardent comment tu fais. Et en fait, ils valident si tu as un savoir-faire ou pas. Parce que je pense que quand on ne sait pas faire du jardin, tout beau, tout fou, on va chez Jardiland, hop, on plante ses trucs, et puis 15 jours après, tout est à moitié foutu. Et ça fait rigoler les gens, quoi. En fait, dans la campagne, je crois qu'on s'observe quand même beaucoup. Il n'y a pas énormément de distractions, donc l'œil à la fenêtre, c'est quand même assez banal. Et quand il passe à hauteur de ton jardin, il jette un œil. Comment c'est taillé, comment c'est tondu, comment c'est planté. Et ils se font une idée, évidemment. C'est pas une réputation, c'est pas encore tout à fait un jugement, c'est une espèce d'appréciation, disons, un peu primaire, pour se dire, tiens, qui c'est ces gens-là. Donc tu le sais, et t'apprends ça. Et donc les gens, ils voient que t'as une certaine habileté. Ben parce que moi je la possède, j'ai appris à jardiner avec ma mère, j'ai toujours fait du jardin, et ça ils le captent les gens.
Ici, comme le décrit très subtilement le sociologue Benoît Coquart dans ses travaux, on ne vous demande pas d'abord ce que vous pensez, on regarde si vous êtes là, si vous savez faire, ceux qui restent et ceux qui font.
Oh, tu vas te calmer toi.
Salut camarade.
Tu vas te calmer.
Voilà, ils sont les bonnes.
Et tu vas mettre un sabot dans le bois là-bas ?
Oui.
Ah ben, à mon avis, ça va passer pas dessus les sabots, hein.
Ah, y a de la merde.
Ah ben,
Oui, donc il peut pas venir.
Vous êtes équipé comme des Parisiens, là.
Oh, ça y est, les insultes commencent.
De l'autre côté de la rue, Jérôme, 61 ans, est né ici. Comme beaucoup d'enfants du pays, sa vie entière s'est déroulée dans un rayon de quelques kilomètres.
Et toi, t'es heureux d'avoir vécu là?
Moi, oui. Bah, tu vas pas m'emmener à Paris, hein. J'ai été une semaine, je venais fou là-bas, alors...
Semaine à Paris.
Sauter pas dessus les rambardes là pour aller prendre le métro et tout le bordel, c'est pas mon truc à moi. Hein. Être entorsé comme des sardines là-dedans.
Toi, tu préfères ton bois?
Ah oui, oui, j'aime mieux me coucher le long d'un chêne s'il faut. Être au calme, entendre les petits oiseaux.
J'aime bien les oiseaux, Jérôme.
Plutôt qu'aller être là-bas. Hein. Oh là!
Il commence à travailler à 14 ans, agriculture, boucherie, armée, chocolaterie, puis l'usine et le syndicalisme ouvrier pour faire corps contre la hiérarchie.
Et du coup, c'est là que tu t'es syndiqué à la CGT?
Ouais, c'est chez Yopley.
Et ça représentait quoi pour toi d'être syndiqué?
Ben, ça représentait déjà d'avoir quelqu'un de notre côté. Et puis, ben, comme c'était... la CGT, c'était elle qui était la plus représentée dans l'usine. On avait toujours plein pouvoir, hein. On arrivait à toujours avoir ce qu'on voulait. Hein. Même s'il fallait être 15 jours dehors, on y allait.
Piquet de grève.
Ouais. Il y avait une bonne entente là-dessus. Et ils l'ont encore.
Oui, tu as connu, tu disais des grèves assez dures. Mais...
Ah ben, on a fait 15 jours le plus. Hein. Ouais. Avec les CRS qui sont venus nous déloger de la grille.
Quelle année?
Oh, je sais plus quelle année que c'était.
Et c'était violent, ça?
Ah là, quand les CRS sont arrivés, oui, c'est là, ça a été un peu plus violent, là. Ça poussait fort, ça faisait comme les paysans. Hein. Ben, le plus... Non, c'était des... il y a des bons souvenirs, mais le plus dur, ben, quand t'es jeune, ça va, c'est les 3-8, ça se fait tout seul. Parce que, bon, ben, j'arrivais même quand je suis le matin, l'après-midi, à aller rebosser ailleurs. Alors, donc, c'est que je forçais quand même pas tant que ça.
Ah oui.
Mais avec l'âge, tu n'y arrives plus.
20 ans d'usine, embolie pulmonaire, un licenciement pour invalidité et une précarité soudaine.
Bah ça a été dur. Bah oui, les payes sont plus les mêmes. Hein. De 2500 euros, tu tombes à 1200. Bah, c'est pas la même vie. Hein. Ouais. Avec 800 euros de maison, tu comptes. Hein. Tu ne restes pas grand-chose. Hein.
C'est sûr.
Leur rencontre, c'est surtout celle d'une amitié improbable.
Parce que je me rappelle, moi, on avait causé, mais tu sais, dans de la haie, quoi. Tu montais la rue avec Noé, et puis la piotte, et on a discuté vite fait, salut, comment ça va, machin.
C'est venu naturellement, hein, je pense pas qu'il y ait eu de trucs, mais il me semble qu'il y avait eu un souci de flotte et que tu étais venu me demander, je sais pas quoi.
Un service, ouais.
Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de lui au début?
J'ai dit, ça va, il cause pas trop mal celui-là. Ça devrait coller. Il a pas l'air trop con, ça a l'air d'aller.
Ouais, on t'observe hein, quand t'arrives.
Ben, je me suis dit, s'il a pris une grande maison comme ça, c'est qu'il doit savoir travailler un peu de ses bras.
Puis ils décident de faire du bois ensemble. Pas encore exactement des amis, pas seulement des voisins. Deux compagnons de route dans une campagne où le faire ensemble prime sur le dire.
Ouais, parce qu'il y a eu
la cabane des chopins là-haut.
Oui. C'était du beau bois. Hein.
Ah ben, c'était que du chêne.
Je revois encore la fendeuse, disons les hiboux. C'est comme ça que c'est venu. Tu savais que je cherchais du bois à faire. J'avais pas de tronçonneuse à l'époque. Je faisais le grouillot.
Oui, et puis après, il avait une tronçonneuse, mais il ne savait pas s'en servir, de toute façon.
Il est chier. Elle marche bien, ma tronçonneuse.
Oh ben oui, elle est aussi lourde que le bonhomme.
C'est vrai qu'elle est lourde.
Il rachète une tronçonneuse parce que là, il a sa petite qui allait pas, je sais pas ce qu'il y avait, ça y a pris, je sais pas pourquoi.
Mais non, c'était celle de mon grand-père, toi. Tu te rappelles pas l'engin, toi?
Oui,
au bout d'une demi-heure, t'as les bras, ils sont...
Et puis celle-là, c'est pareil.
Bien, celle-là. Ben, oui, un peu lourde. Ah, on est plus que voisins, parce que moi j'aime bien venir boire le café, Jérôme il s'arrête quand il veut, on discute. Comme il dit, à la campagne, c'est quand même mieux d'avoir des voisins avec des liens amicaux que de se regarder en chien de fusil.
Hein. Ah bah oui. Hein.
Donc...
Est-ce que vous l'étiez déjà dit que vous étiez amis?
Bah, on n'a pas besoin de te le dire. Lui, il vient chez moi, moi, je vais chez lui.
Voilà. Lui, il dit mon ami, moi, je dis mon camarade.
Ça veut tout dire.
Je sais qu'il aime bien quand je l'appelle mon camarade.
Non, puis c'est pareil, lui, quand on fait le bois ensemble, ça rapproche aussi. Hein,
ouais, c'est vrai.
Quand tu travailles des fois ensemble.
C'est vrai. On aime bien aller au bois. On burine. On rigole. On boit le café là-bas.
On n'est pas poussé, c'est nous les patrons.
Ah, ça c'est bien.
Et parce que vous en passez du temps ensemble au final au bois.
Ça va pas si vite que ça.
Là on va attaquer en février. Février, ça va nous mener jusqu'en avril.
Ça va pas si vite que ça.
Hein. Tous les matins.
Puis, bien que discrète, la politique s'invite dans les échanges.
Et un jour, je rentre chez lui et je découvre sur la table. Journal de la CGT, mais je pense la section paysan, il y avait Fossi Marteau et Gerbe de Blé en dessin sur la couverture. Alors là, moi, je me fends la gueule, je dis, waouh, putain, je suis tombé sur un vieux CGTiste du monde paysan, parce que je savais que Jérôme avait été ouvrier agricole, et puis qu'il avait ensuite travaillé dans l'industrie, donc je lui dis, ah putain, mais tu es à la CGT. Moi, je me disais, waouh, j'ai un pote... le gaucho dans le coin. Il rigole, il dit ouais, je suis toujours. Bon, allez, je te le dis franchement, j'y suis plus, mais je sais pas pourquoi il continue à m'envoyer le truc. Bon, ok. Et c'est mon Jérôme, quoi, qui m'a fait l'aveu très rapidement que lui, la politique, il en était revenu, qu'il avait été à la CGT parce qu'il fallait se défendre, les patrons voraces. Mais voilà, je comprends très vite qu'il a glissé du côté du populisme lepéniste. En disant, de toute façon, on a tout essayé sauf Marine, comme il dit. Et voilà, je comprends qu'il fait partie de ces gens qui ont pu être de gauche et qui sont tombés du côté obscur.
Le syndicaliste n'est plus syndicaliste. Le voisin ouvrier vote désormais RN.
Ben parce que à force de faire droite-gauche, 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 et puis que c'est rien qu'avant, j'ai dit pourquoi pas essayer. Mmh. Après, peut-être pas mieux, hein. Mais moi, je dis qu'il faut changer tous ces guignols-là, hein. On les connaît depuis X temps. À part nous bouffer des sous, et tout ce qu'ils savent faire, alors c'est bon, hein.
Puis, je réalise que la CGT, pour lui, n'a jamais vraiment été une identité politique, mais plutôt une protection.
Ah non, non, il y avait toutes...
toutes les couleurs.
Toutes les couleurs, hein, à la CGT. On n'était pas forcément du côté CGT. Hein.
Ouais. C'était plus une manière d'être solidaire dans l'usine.
Oui, et puis être défendu surtout.
Ouais.
Et puis d'avoir eu des bons délégués surtout. Parce que des fois, t'en as qu'on les étiquette, mais...
Ouais, ils font pas le
boulot. Ils bougent pas. Hein.
Jérôme ne parle pas d'identité nationale. Il parle d'alternance sans effet. De l'usure d'une élite politique qui parle d'elle comme du sommet et de ceux qui ne sont rien comme de la base. À l'usine, on faisait bloc ensemble. Dans l'isoloir, chacun faisait ce qu'il voulait. Un peu comme avec son voisin aujourd'hui.
Ben on est venu à parler de ça parce que je savais qu'il allait voter. Bon, on s'en est pas caché de ce qu'on votait, hein, de toute façon.
Bah oui.
Et puis bah après, chacun son opinion, hein. Lui, s'il voit blanc d'un côté, puis moi de l'autre...
Pas blanc.
Chacun sa position. Hein. Je ne vais pas me fâcher avec quelqu'un pour la politique. Hein. Vu tous les bras cassés qu'il y a là-dedans...
Ce serait con.
Dis donc. J'aime mieux boire un coup avec lui plutôt qu'aller m'engueuler. Surtout pour ça. Dis donc. Chacun estime...
Et les deux compères se retrouvent sur un constat commun.
Oui, mais on s'engueulerait pas entre voisins pour ça, quoi.
Le Macron, apparemment, il n'est pas si clair qu'il en a l'air d'y être aussi, lui.
Bon.
Parce qu'on en découvre, si en ce moment.
Sur Macron ?
Ouais, on a un ennemi commun, là.
Ah ben lui et puis son fils.
Le mal qu'a fait Emmanuel Macron.
Son fils, chérie.
C'est qui, ça ?
C'est Attal.
Ouais.
Ah ben, pour ce qui va mal, de toute façon, tout le monde, je pense que tout le monde voit ce qui va mal, hein. C'est surtout notre portefeuille qui va mal.
À moins d'être macroniste, tu peux pas trouver que ça va bien.
Ouais.
Ouais. Mais il en reste pas beaucoup.
Ouais, j'allais dire, je crois qu'il y en a de moins en moins.
Hein. Ce qu'on a qu'à faire, c'est que si Le Pen passe et que ça change rien à ta vie, bah tu voteras Mélenchon la fois d'après.
Ah non, non, je resterai toujours la même couleur, mais je vais pas changer en cours de route. Non, mais non.
Ah, c'est con, putain.
Mais si elle fait pire que Macron ?
Elle fera pas pire, c'est impossible.
Mais si, c'est toujours possible. Avec Sarkozy, on avait dit on a touché le fond.
Ben là, on c'est encore pire. Alors.
Mais il a creusé, lui. Donc, c'est toujours possible, le pire. Faut bien se dire ça.
Je mets un peu de bois. Je ramène du bois parce qu'on a allumé le feu. Il faut du charme.
Pour comprendre cette question du dépassement du clivage, le sociologue Julian Michy décrit les mondes populaires ruraux comme des espaces de coexistence politique. Les gens ne vivent pas entre convaincus, ils vivent avec ceux qui sont là.
D'abord, il faut dire une chose pragmatique, même si le mot peut être suspect. Moi, je suis fait comme ça, je ne peux pas me payer le luxe de tourner le dos à tous les gens qui ne pensent pas comme moi. Ça peut être le cas en ville, parce que finalement, tu peux vraiment choisir. Mais en vie, en campagne, tu ne peux pas, à moins d'avoir envie d'être vraiment ermite, ou tu ne peux pas construire tes relations sur des affinités politiques pures. Enfin, moi, je pense que la politique, ça a sa place dans l'usage quotidien des liens humains. C'est-à-dire, on ne peut pas entrer en relation avec des gens parce qu'ils partagent nos opinions, mais c'est en entrant en relation avec eux et en pratiquant un certain nombre d'actes sociaux, d'échanges, de troc, de rire, un café, qu'on va peut-être politiser nos manières d'être. Pas évident, hein. De toute façon, je me sentirai toujours plus proche d'un type qui votait Rennes dans une espèce de perte de repères idéologiques, politiques, que d'un bourgeois qui vote Macron ou Glucksmann. Ou... Ça, pour moi, les véritables fautifs, les véritables connards, c'est ceux-là. Les malfaisants, c'est ceux qui ont un bagage culturel, intellectuel, et qui se drapent comme ça dans leur énoncé socialo-réformiste. Et qui nous ont fait bouffer les pires couleuvres. Non, mais ceux-là, je les conchis. Non, je suis beaucoup mieux avec Jérôme dans sa cuisine. Même avec CNews à fond dans les oreilles. Je suis chier, il n'écoute pas CNews.
La politiste Annie Colovald et le sociologue Éric Neveu ont montré combien le discours public réduit souvent ces territoires ruraux à leur vote. Comme si tout s'expliquait par l'idéologie. Je comprends alors que le vote RN de Jérôme devient pour mon père le symptôme d'une trajectoire sociale et non une incarnation doctrinale.
Voilà, Jérôme, je pense que lui, il a vécu le sentiment d'être petit, exploité, corvéable et qui n'avait que sa force de travail. C'est une force, Jérôme. Ce qui me touche chez lui, qui pourrait expliquer sa trajectoire jusqu'à aujourd'hui vers le RN, c'est d'abord le sentiment d'une forte trahison. Et qui effectivement se manifeste quotidiennement par l'usure du corps, par la précarité, enfin pas la précarité, mais Jérôme, il chichement, tu vois, il n'est pas, il est fin de mois, c'est compliqué. Il a comme beaucoup pensé, c'est pas la gauche qui va m'aider à mieux vivre.
D'ailleurs, elle ne m'a pas aidé.
Et elle ne m'a pas aidé, et elle ne m'aidera plus. Écoute Glucksmann 5 minutes, t'as compris, hein. Moi, je peux comprendre que ces gens-là, aussi bien aux municipales, aux législatives et à la présidentielle, ne se tournent pas vers ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche. C'est de la misère, quoi.
Sans le dire, c'est encore une fois la question du vivre et du faire ensemble qui prime.
Du coup, c'est plutôt le faire ensemble, le se prêter des trucs, se prendre des services qui créent le lien.
Oui, ça va avec. C'est-à-dire qu'on a un lien se créer, et parce qu'il se crée avec une certaine... confiance, souplesse, plaisir, je ne sais pas comment appeler ça, il va y avoir des sollicitations de ce type-là. C'est-à-dire, moi, Jérôme, à partir du moment où il me fait confiance, il me propose du gibier. Moi, je crois simplement parce qu'il a de la sympathie, puis que moi, j'en ai pour lui. Moi, j'y emmène des légumes, parce que je sais qu'il ne fait pas de jardin. Et puis moi, je lui emmène du patoche, des terrines, des rillettes, il est content, il adore ça. Il en emmène à la cabane de chasse, les gens disent « Ah putain, il est gars, ton pâté, faut ton pote, faut qu'il nous en fasse. » Voilà, ça crée des espèces de liens comme ça, informels, pas... C'est pas structuré autour d'une identité ou de...
On n'a même pas conscience qu'on fait du troc, en fait. Ça se fait. Voilà.
C'est sur ce point précis que revient la dimension politique de sa pratique du lien social en milieu rural, notamment à travers un concept inventé par George Orwell à la fin des années 30.
C'est rendu compte que les gens à la campagne se souciaient assez peu, finalement, de savoir de quel camp ils étaient, mais partageaient un destin de vie commune, quotidienne, et c'est surtout ça qui faisait le ciment et le lien entre eux. Et il a créé ce concept que je trouve absolument utile, la common decency, c'est-à-dire la décence commune, pour le traduire au pied de la lettre. On s'éloigne un peu des grandes idées ronflantes, du socialisme triomphant, et on est dans une pratique quotidienne de s'entraider, se prêter, se soutenir, faire ensemble, échanger. Voilà, et moi je trouve ces choses-là très vivifiantes. Je savais déjà, puisque j'ai grandi à la campagne, que ça pouvait exister, mais je le vis de façon beaucoup plus conscientisée quand j'arrive à la campagne à 55 ans, parce que ça fait partie de quelque chose qui a mûri dans mon parcours aussi bien politique que philosophique. Donc je suis beaucoup plus disponible à accueillir ces choses-là et à les pratiquer.
La politique ne disparaît pas, elle change d'échelle.
La question du service, par exemple, on est dans des endroits où la question des services publics, c'est lamentable. Bah, les gens s'auto-débrouillent, quoi, je veux dire. Tiens, bah, je descends à Dijon, j'ai un rendez-vous chez le cardio, tu veux qu'on prenne un rendez-vous le même jour, comme ça on y va à deux. Bah oui, parce que quand tu as besoin d'aller chez un cardiologue, tu en trouves un à Dijon. Parce qu'autour de nous, il n'y en a plus beaucoup, puis les services de cardiologie sont décimés. Donc déjà, tu te tapes 4 heures de route, plus le gasoil, plus les 10 euros d'autoroute. Donc très vite, tu te rends compte que mutualiser, c'est bien. Alors la mutualité, c'est une idée profondément anarchiste. Et quand tu es dans cette situation, ça choque plus personne de se dire « Tiens, on y va ensemble ». Mais personne ne sait, parce que personne ne s'en rappelle, que la mutualité, c'était déjà ça à la base. Donc c'est là que je souris en disant « Bah oui, c'est une pratique politique insu, mais elle est là. » Donc évidemment, moi qui la prône, bah, je suis heureux, je me dis « Ah, ça c'est un acte. » En fait, bon, ça va pas changer la face du monde, mais au moins ça existe.
À ce stade, une question demeure. Jusqu'où placer le curseur de la concession, de la cohabitation, sans tomber, même sans le vouloir, dans une forme de banalisation des idées d'extrême droite?
Je pense que si j'avais affaire à un voisin fasciste, consciemment fasciste, c'est-à-dire qu'il assume, qui disent que voilà, il faut un État fort, autoritaire, qui brime certaines libertés, qui mettent les gauchias en camp de redressement, etc. Je parlerai pas à ce type. Mais c'est pas ça, moi, que je rencontre en campagne. Il y a assez peu de gens comme ça. Il y en a sûrement, mais comme partout en ville aussi, je pense. Enfin, c'est sûr même. Mais Jérôme, il n'est pas ça. Quand je lui ai dit la première fois que je me suis permis, il me parlait de Le Pen et des Arabes, des Noirs, machin. Je lui ai dit, mais tu sais que peut-être un jour, ton fils, Noé, qui a une coupe afro comme ça, on dirait un Jackson, il peut se faire casser la gueule à la sortie du lycée parce qu'il est black, par des connards qui cherchent à casser du noir ou de l'arabe. Qu'est-ce que ça va te faire? Là, j'ai vu dans ses yeux, ah, j'ai pas pensé à ça, quoi. Dans ce monde-là, il pourrait arriver ça pour mon fils. Ça l'a pas changé. Mais je pense qu'il a pris la mesure, là, à ce moment-là, qu'il fallait être conscient qu'en encourageant certains discours, on allait encourager certains actes. Et lui, il a un enfant qui est, par sa mère, à moitié ivoirien. Donc c'est quand même extrêmement questionnant.
En naviguant ainsi entre deux champs, le lien social devient alors un espace politique à part entière.
C'est la nécessité, moi, qui me pousse à ça. C'est-à-dire, j'habite ici, je vis ici, donc je dois me démerder avec ce qui est ici. C'est là où ma vie se déroule. Donc, comme je suis un peu assez matérialiste, ben, je crois que mes actes, mes paroles, mes façons d'être vont influencer mon environnement. Voilà. Mais c'est pour te dire que, voilà, parce qu'on vit dans un endroit et qu'on y témoigne d'une certaine manière d'être, on fait bouger un peu les choses. Alors, C'est pas la révolution, c'est pas la radicalité. J'ai pas prévu de poser de bombe la semaine prochaine. Mais je reviens à Orwell, quoi, au ras de la vie des gens qu'on peut faire peut-être un peu changer les choses. Moi, je n'attends plus grand-chose des grandes messes révolutionnaires, machin. J'aimerais que les gens prennent conscience que tout viendra d'eux-mêmes. Nous avons une vraie capacité d'autogestion, d'auto-organisation, d'intelligence collective, de puissance collective. Vive Spinoza. Merde alors.
C'était Hugo et Jérôme, premier épisode de la mini-série Entre deux champs, par Léo Thierry et Julie Lopez. Merci à Hugo et Jérôme pour leur confiance. Accompagnement Clément Salzard et Benoît Coquard. À la technique, François Salisson.